Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. La séparation de l'Église et de l'État en 1905 et, de manière générale, la lutte républicaine contre l'Église des années 1880-1890 sont souvent associées dans les mémoires collectives au nom du petit père Combe, de Waldeck-Rousseau ou bien encore de Jules Ferry. Oui, notre mémoire, sélective par nature, a tendance à oublier un homme politique qui pourtant joue un rôle majeur dans l'élaboration et la défense du texte de 1905. J'ai nommé Aristide Briand. Voici un portrait qu'en faisait un de ses contemporains. À la tribune de l'Assemblée, Aristide Briand n'a pas son pareil. Il possède un degré extraordinaire, la faculté de saisir les impressions d'une foule. Il sent son auditoire, il le pressent, il en devine les mouvements avant qu'il soit formé et véritablement, de ses deux mains toujours tendues devant lui, il semble saisir, façonner, modeler à sa guise l'Assemblée. C'est son génie. De paroles faciles, de voix très agréables, de gestes enlaçants et de tons conciliants, il crée la persuasion. C'est du joli travail. Ainsi, Maurice Barrès parlait-il d'Aristide Briand. Au-delà de ce portrait très flatteur, pourtant d'un opposant politique, Aristide Briand va sans nul doute donner un esprit et bien plus encore à la loi de 1905. Pour évoquer les rapports de cet homme politique avec l'Église, pour revenir sur la part de son travail réalisé dans l'élaboration de la fameuse loi, je reçois Bernard Houdin. Bernard Houdin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez écrit une biographie d'Aristide Briand, paru dans les années
1987
exactement. Cette biographie a été rééditée en 2004 aux éditions Perrin. C'est une biographie qui a été primée par l'Académie française. Alors, comment, Bernard Houdin, en êtes-vous venu à traiter un tel sujet ? Aristide Briand, au fond, on a l'impression de le connaître, puisqu'il y a de nombreuses rues dans nos 36 000 communes ou 33 000 communes françaises qui portent son nom. Et d'un autre côté, eh bien, on se demande qui fut réellement ce personnage.
Oui, c'est précisément ce détail qui m'a intrigué au départ. Parce que effectivement, il y a probablement plusieurs centaines de communes qui ont dont les avenues ou les boulevards portent le nom d'Aristide Briand. Je crois qu'il vient tout très peu après Victor Hugo et Gambetta dans ce palmarès. Et pourtant, c'est un homme aujourd'hui extrêmement oublié. Et quand on s'en souvient de son échec, puisqu'il avait voulu le rapprochement franco-allemand, enfin la réconciliation franco-allemande dans les années 20, et que cette politique de réconciliation a tragiquement échoué, et presque symboliquement, Briand meurt en 1932, et avec lui les espoirs de paix, et l'année suivante, 1933, c'est l'homme de la guerre, Hitler, qui arrive au pouvoir en Allemagne. Donc, je crois que la postérité lui en a voulu, n'est-ce pas, de cet échec, même si finalement la politique qu'il avait prônée a été reprise d'un meilleur pas après la guerre, et où finalement le rapprochement Adenauer-Schumann ressemble comme deux gouttes d'eau au rapprochement Stresemann Briand des années 20. Alors c'est cette dualité qui m'avait intrigué, et puis j'ai découvert en même temps un homme qui a vraiment été un de ceux qui ont gouverné la France pendant 30 ans, parce que pour remettre les dates en...
Il a été plusieurs fois ministre.
Il a été 11 fois Premier ministre et président du Conseil, on disait à l'époque, et près de 25 fois ministre. Et sa carrière a commencé assez tard, parce qu'il est né en 1862, il a vraiment commencé sa carrière politique en étant élu député en 1902, donc il avait déjà 40 ans. Mais de 1902 à 1932, il a eu une carrière extraordinaire. Il a occupé à peu près tous les ministères, la justice, l'intérieur, les cultes, etc. Et finalement, les affaires étrangères sans interruption de 25 à 32, à sa mort. Et chose alors qui est totalement oublié, il a été président du Conseil pendant 18 mois de la guerre de 14. Il était aux commandes au moment de la bataille de Verdun. Or, ça, son souvenir est complètement occulté. Le seul gouvernant civil dont on se souvient de cette époque, c'est Clémenceau, n'est-ce pas ? Il faut dire qu'il y avait un petit peu une erreur de casting, comme on dirait aujourd'hui, à l'avoir mis au pouvoir à ce moment-là, parce que c'est son talent essentiel, c'était un talent de diplomate. Et c'était pas exactement ce qu'il fallait pour galvaniser les énergies nationales. Bon. Mais en revanche, ses talents de diplomate ont fait merveille, non seulement à la fin de sa carrière, mais dans cette période que j'ai évoquée également, bien sûr, qui est la période de la séparation de l'Église et de l'État, qui a été d'ailleurs le marchepied de sa fortune politique.
Alors justement, nous allons laisser de côté évidemment le ministre des Affaires étrangères, oui, le président du Conseil. Nous allons exclusivement orienter cette émission vers cette loi de 1905 et bien après, la question des inventaires, il sera ministre des Cultes. Oui. Il aura un rôle également au moment du cartel en, oui, 1924. Mais avant d'aborder cette question, il me semble important de revenir sur son parcours politique jusqu'en 1902, qui est l'année de son élection, et au fond, de revenir sur ses origines. D'où vient Aristide Briand ?
Il est né à Nantes, c'est un Breton. Il a passé son enfance surtout à Nantes et à Saint-Nazaire. Il a fait des études. Il était d'un milieu très modeste. Son père tenait un petit débit de boisson à Nantes, puis après un café-concert à Saint-Nazaire, ce qui est une promotion dans un certain sens. Et il a fait des études de droit. Il est devenu avocat, et comme on sait, sous la Troisième République, on collectionnait le nombre d'hommes politiques qui, au départ, étaient avocats. Enfin, c'était une des voies pour la politique, peut-être parce que l'art oratoire tenait beaucoup plus grand rôle dans la vie politique que maintenant. Et donc, il devient avocat un peu, et tout de suite, très vite, il est militant d'extrême gauche de l'époque, et militant socialiste. Il défend la cause de syndicalistes ou d'ouvriers licenciés, essentiellement, c'est son rôle. Il est journaliste également dans un petit journal de gauche de Saint-Nazaire. Donc il fait ce travail-là. Bon.
Mais avant d'engager, j'allais dire, sa carrière professionnelle, oui, si vous pouviez parler de l'élève, il a une quel élève est-il ?
Ah oui, bah ça c'est drôle parce que
il a une réputation, on lui fera une réputation
et de cancre,
de cancre, d'inculte.
Voilà. Alors, on lui fera toute sa vie une réputation de cancre et d'inculte. On citera ses bourdes, ses cuirs, etc. Bon, il traînera comme une casserole toute sa vie d'avoir dans un des textes fondateurs de la séparation et des questions du Concile des Trente. Bon, en fait, c'était probablement
une faute de frappe
d'une secrétaire et pas de lui. Mais enfin, bon. Et très curieusement, il n'a rien fait pour empêcher ça. Au contraire, il était extrêmement habile et il trouvait que c'était, bien qu'on pense qu'il était un cancre, c'est pas. Il disait même, il a confié même à ses proches, il faut qu'on me croie complètement idiot. Trouvait que c'était plus habile. Et quand en découvrant le personnage, j'ai pu consulter son background, enfin son bilan scolaire, j'ai aperçu qu'il était premier partout et qu'il n'a pas du tout été un cancre. C'est vrai que c'était un homme qui ne s'intéressait pas beaucoup, qui ne lisait pas beaucoup en dehors de romans policiers, ça c'est vrai. C'était un homme d'oral, il n'aimait pas les dossiers, il ne lisait non seulement pas de livres, même pas non plus les dossiers, il avait horreur des dossiers, il préférait que des collaborateurs lui expliquent. Bon, c'était un homme d'oral. Mais n'empêche qu'il avait fait des études tout à fait convenables, qu'il a fait son droit, qu'il était licencié en droit, enfin c'était sinon un élève brillant, du moins un bon élève.
Il a un grand talent d'improvisation.
Oui, comme tous les grands orateurs, enfin...
Alors, dans son parcours, il y a une chose extraordinaire en lisant votre biographie, c'est que c'est un homme qui a côtoyé Jules Verne.
Oui, dans son enfance, son adolescence, Jules Verne à ce moment-là vivait à Nantes, avait un bateau qui était amarré à Nantes, et je crois que Briand était dans le même lycée que le fils de Jules Verne, et ils se sont connu comme ça, et il y a une trace de cet intérêt de Jules Verne pour Briand dans le fait qu'il a appelé Briand un des personnages d'un de ses romans qui s'appelle une sorte de vacances, enfin j'ai oublié le titre, excusez-moi, qui est l'histoire de trois adolescents qui sont sur une île, qu'un naufrage jette sur une île déserte, et un de ces adolescents s'appelle Brillant avec un T, mais très probablement, et c'est Brillant qui...
Donc il y a vraiment eu un lien entre les deux personnages.
Oui,
et j'ai découvert un Jules Verne plutôt à gauche.
Oui, mais enfin, c'était pas ça qui les avait rapprochés, puisque à ce moment-là, Brillant était encore très, très jeune et pas du tout engagé dans la vie politique. Mmh. Alors après, il monte à Paris à la fin du siècle et et à ce moment-là, il est dans le parti, on dit le parti socialiste, mais en fait, il y en avait plusieurs, avec beaucoup de courants, comme nous dirions aujourd'hui. Donc, vous voyez que les choses n'ont pas beaucoup changé au sein du parti socialiste. Et notamment, il y avait deux grands courants incarnés par deux hommes, un courant réformiste, nous dirons, incarné par Jaurès, et un courant révolutionnaire, incarné par Jules Guesde, plus proche du marxisme. Et Brillant se met dans le sillage de Jaurès. Et puis il fait différentes tentatives pour électorales malheureuses, une première dans à Saint-Nazaire, une autre à Paris, et finalement comme il monte un petit peu, son influence monte au sein du parti, il est parachuté, comme nous dirions aujourd'hui, à Saint-Étienne, un endroit où il n'a absolument aucune attache. Il devient député de la Loire donc en 1902. Et à ce moment-là, il n'est qu'un obscur député parmi d'autres. Et puis le hasard voudra qu'il va devenir membre d'une commission. Et la commission qu'il choisit, c'est la commission qui prépare la séparation de l'Église et de l'État.
Alors, quelles sont à cette époque ces options politiques ? Bon, c'est un homme de gauche. Est-ce que, par exemple, par rapport à l'Église, est-ce qu'il fait preuve d'anticléricalisme ? Est-ce que il montre une nuance dès sa formation politique ou...
On ne peut pas dire. Simplement, c'est pas un fanatique. Je crois qu'il n'a pas été élevé religieusement, donc on l'a pas élevé dans la haine des curés, ni non plus dans un tel conformisme religieux qu'il aurait envie de s'en échapper. Pas du tout. Il est assez indifférent, je crois, à la religion. Et ce n'est pas un fanatique de tempérament dans ce domaine-là comme dans les autres, si vous voulez. Il est dès qu'il devient député à ce moment-là, c'est Combes justement 1902, issu des nouvelles élections, ces élections 1902 qui ont apporté un fauteuil. Un siège de député à Brillant donne la majorité à ce qu'on appelle le bloc des gauches et ce qu'on appelle les blocards. On adore les finales en art à l'époque. Et Brillant devient un très fidèle soutien de Combes. Il n'y a pas de problème. Mais le moment venu, il s'en détachera un petit peu, mais ça, c'était un autre.
Vous écrivez, Aristide Briand n'est d'ailleurs pas un révolutionnaire, il ne se proclame pas encore socialiste, mais radical.
Oui, on peut dire, mais ça c'était au tout début. Après, il s'est proclamé socialiste. Dans ses premières, les premières fois où il a écrit dans des petits journaux à Saint-Nazaire, il se disait radical. Après, il est devenu tout à fait socialiste. Et même, il a un jour un peu imprudemment dans un congrès, vous savez, dans les congrès, faut dire des choses, etc. Et il a tenu tout d'un coup des propos révolutionnaires qu'on lui a évidemment que ses adversaires politiques lui ont ressorti pendant toute sa vie. Il a dit d'ailleurs, c'est un propos que je n'ai tenu qu'une fois, mais que j'aurais entendu bien des fois.
Il y a un point important qui, pour l'époque, surtout à cette époque de lutte anticléricale, c'est qu'il n'est pas franc-maçon.
Oui, il n'est pas franc-maçon. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Clémenceau n'était pas franc-maçon. Jaurès non plus. C'était assez. Il y a eu quand même moins de francs-maçons qu'on l'a dit. Mais c'est vrai que les francs-maçons, et surtout les francs-maçons du Grand Orient, étaient particulièrement anticléricaux. C'était le cas de Combes qui était franc-maçon et qui arrivait même dans certains débats de faire un appel plus ou moins discret à la solidarité maçonnique.
Je reçois Bernard Houdin et nous évoquons cette personnalité qui est Aristide Briand. Bernard Houdin, vous êtes l'auteur d'une biographie parue chez Perrin. Il s'agit d'une réédition parue l'an dernier. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Bernard Houdin, auteur d'une biographie, Aristide Briand, paru chez Perrin. Alors nous avons évoqué en quelques mots le parcours politique d'Aristide Briand avant 1902. Nous arrivons donc à cette période qui précède la séparation de l'Église et de l'État, qui est une période où, clairement, nous l'avons vu à ce micro en invitant Christian Sorel, professeur à l'Université de Savoie, il y a une réelle lutte entre l'Église d'une part, et la République. Alors, rappelons en quelques mots, Bernard Houdin, tout ce contexte dans lequel, oui, au fond, Aristide Briand va pouvoir émerger, puisque c'est la loi de 1905 qui va permettre à Aristide Briand d'émerger sur la scène politique.
Oui. Oui, il faut remonter, aux années qui ont suivi la guerre de 1870. La République est assez fragile au début et l'Église, majoritairement conservatrice, lui est hostile. Elle ne reconnaîtra même la République que, disons, du bout des lèvres à la fin du siècle, par un discours du cardinal de la Vigerie. Mais jusque-là, elle était même carrément hostile à la République. Donc, il y a déjà une hostilité entre politique fondamentale, mental, si vous voulez. Et puis, les hommes politiques républicains, donc du seul fait qu'ils sont républicains, se dire républicain, c'était se dire anticlérical, n'est-ce pas ? Encore pendant la guerre de 1914, on entendra Joffre, à qui on sert un plat de poisson un vendredi saint, se mettre à hurler en disant qu'on me serve de la viande, je suis un général républicain. Il ne dit pas un général anticlérical, il dit je suis un général républicain. Républicain, ça voulait dire anticlérical, puisqu'on était aussi à l'Église. Alors, ça commence à s'exacerber à l'époque de Jules Ferry, qui prend un certain nombre de mesures, notamment sur le plan de l'éducation, parce qu'évidemment, le grand terrain sur lequel la République veut mettre la main, c'est l'école, et l'école qui jusque-là est encore très largement en main de l'Église catholique. Donc c'est vraiment une lutte d'influence qui se passe sur arracher la jeunesse à l'Église. C'est ça le but essentiel de Jules Ferry. Ça ne se calme pas, on peut dire, après, dans les années qui suivent. Et quand on arrive en 1902, le petit père Combes va symboliser, pendant les 3 ans de son ministère, il est un ministère assez long, de 1902 à 1905, il va symboliser, on peut dire, non seulement le sectarisme, mais même une forme de persécution, puisque son prédécesseur, Waldeck Rousseau, avait fait en 1901 la fameuse loi sur les associations, mais avait soumis les congrégations religieuses à une autorisation. Et dans son esprit, il s'agissait d'en autoriser certaines et d'en interdire d'autres, et Combes dit, c'est très simple, on va les interdire toutes. Je crois qu'il n'y en a eu que 3 qui ont été autorisées, c'était les Pères Blancs, enfin les congrégations missionnaires, parce que là, il y avait un intérêt colonial, si vous voulez. Mais sans ça, toutes les congrégations sont interdites, les moines sont expulsés de France, enfin, il y a vraiment une forme de persécution. Mais le paradoxe, c'est que pendant toute cette période, il n'y a pas séparation de l'Église et de l'État. Nous en sommes toujours au Concordat. Le Concordat fait par le dernier en date, celui de Napoléon, 1801. Et pourquoi y a-t-il tient-on au Concordat? Eh bien parce que, bon, les catholiques, eux, ils ne veulent à aucun prix qu'on supprime le Concordat. Et quant aux anticléricaux, ils ne sont pas très sûrs de vouloir qu'on arrête le Concordat. Pourquoi? Parce que le Concordat avait été fait par Napoléon dans la vieille, bonne et vieille tradition gallicane française qui faisait que on contrôlait l'Église. Et on la contrôlait de très près. Le Concordat permettait à l'État de surveiller de donner son accord à la nomination des évêques. Il interdisait aux évêques de se réunir, ce qu'on appelle aujourd'hui, ça se passe tous les jours, la conférence épiscopale, c'était absolument interdit sous la République et sous l'Empire, et sous tout le 19e siècle. L'État français, quel qu'il soit, ne voulait pas que l'Église, les évêques se réunissent, etc. Donc il y avait tout un contrôle qui était dans un sens bien commode. Et on en est arrivé à ce comble du paradoxe, paradoxe, en 1904, on a rompu les relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Bon, rupture totale des relations diplomatiques. Et en même temps, le Concordat n'était pas aboli. Alors évidemment, les choses mûrissent et fatalement, on en arrive à tout le monde a conscience que cette situation, enfin surtout dans le camp républicain, que cette situation est absurde et donc qu'il faut faire une séparation et donc on en arrive à cette idée de séparation qui fait son chemin.
Alors justement, avant de venir à cette crise de 1904, puisqu'il y a une crise en 1904 avec le Vatican, Aristide Briand, lui, est chargé, le 18 juin 1903, d'étudier toutes les propositions de loi déposées par les députés sur le sujet. Comment aborde-t-il cette question ?
Oui, comme dit, l'idée était déjà un petit peu dans l'air, mais on ne se décidait pas à le faire. Donc, parce qu'on fait, comme toujours dans ces cas-là, on crée une commission. Bon, c'est une façon d'attendre et de voir venir le problème. Donc, il se trouve que Aristide Briand est membre de cette commission et qu'il n'y a pas de volontaire pour être rapporteur. Finalement, c'est lui qui est rapporteur. Bon, alors il aborde une question. Effectivement, il y a eu différents projets et il commence à élaborer un projet en s'entourant d'une équipe très compétente, de trois hommes, dont l'un était protestant, l'autre était juif, le troisième était athée, enfin bon, mais sans religion. Et il commence à élaborer un projet en s'inspirant de différents projets qui avaient été déposés ou qui étaient dans l'air. Et dès ce moment-là, il commence à aborder un petit peu la question sous l'idée d'une sorte de, on dirait aujourd'hui, de divorce par consentement mutuel, si vous voulez. Et c'est cette idée qu'il va cultiver.
Ouais. Dès lors, en fait, il se démarque et il se démarque de ces
en tout cas de Combes,
des radicaux.
Ouais. En tout cas de Combes qui, à la veille d'être renversé, élabore lui-même un projet de, alors là c'est un projet gouvernemental de séparation de l'Église et de l'État, et qui est une telle machine de guerre contre la religion catholique en particulier, et même la religion en général, que même les protestants, qui sont évidemment pour des raisons historiques bien faciles à comprendre, favorables à la séparation de l'Église et de l'État, enfin des églises et de l'État, les protestants et les juifs disent non, on n'est pas d'accord pour quelque chose de un texte aussi guerrier qui était vraiment quelque chose pour détruire la religion en France. Il interdisait même les processions, voulait interdire aux prêtres de porter la soutane, etc. Enfin, je vous en passe. Et là-dessus, Combes est renversé. Son successeur, qui n'a pas fait dont le nom n'est pas resté très important dans l'histoire, qui s'appelait Maurice Rouvier, c'était un ancien ministre des Finances, s'occupe, connaît pas très bien le problème, mais il a conscience tout de même que maintenant la séparation est inéluctable et il suggère aux députés de reprendre le projet que Aristide Briand et ses collègues étaient en train d'élaborer. Et ce qui serait également important pour la carrière de Briand, c'est que justement, comme je le disais, Maurice Rouvier connaît très mal la question et s'en remet aux gens qui la connaissent mieux que lui. Mmh. Et donc le gouvernement, pendant tout ce débat, va rester un petit peu étranger, va laisser faire.
Il va y avoir, dans votre livre, vous comparez la crise entre la République et Rome à la fameuse dépêche d'Ems qui a préludé au conflit franco-allemand.
Il y a eu des anecdotes et ça a été très fort, d'autant plus que Léon XIII, qui était un pape relativement conciliant, enfin au moins au niveau de la façon de présenter les choses, était mort et il avait été remplacé par un pape de combat qui était Pidis, qui était lui absolument hostile à la séparation et qui l'a exprimé dans des termes d'une violence, d'une brutalité très très grande. Donc là, on a vraiment le gouvernement français a face à lui un pape qui est très déterminé à combattre la République française.
Alors, est-ce qu'en 1903-1904, on peut parler pour Aristide Briand d'un véritable tournant politique?
tournant personnel, enfin le tournant personnel ça, sera,
oui.
ça sera le débat de 1905 qui va le mettre en vedette. Non, en 1903-4, il n'est encore qu'un obscur député.
Mais dans
député.
Son analyse, l'approche nuancée au fond, ce divorce
il
à
n'est
la
pas le seul. Il n'est pas le seul d'ailleurs, mais il n'est pas le seul, mais c'est un fait que il va vite s'opposer aux gens les plus radicaux au sens banal du mot, si vous voulez, les plus extrémistes. Et les extrémistes, c'est con, mais c'est aussi un groupe de députés, notamment Maurice Allard. Il y a un petit groupe de députés qui sont vraiment des gens qui veulent extirper l'Église et le catholicisme en France. Et il va avoir quand même maille à partir avec eux. Et puis il va avoir maille à partir avec les catholiques, qui dans leur très grande majorité sont absolument hostiles à la séparation, même si on fait remarquer à ces catholiques que finalement l'Église sera plus libre, et effectivement elle le sera. Mais comme dit Anatole France, et c'est pas faux, l'Église ne veut pas être libre, il parle de l'Église de l'époque, l'Église ne veut pas être libre, elle veut être dominante. Et les catholiques, dans leur majorité, sont très hostiles à l'idée de séparation, même les catholiques, qu'on pourrait dire, pour simplifier, les catholiques de gauche, parce que, comme vous le savez, il y avait déjà à l'époque, dans le mouvement catholique, un courant assez social. Albert Demain, etc. Or, ce courant est particulièrement hostile à la séparation, parce qu'il a l'impression que les valeurs chrétiennes sont justement ce qui pourrait justifier une réconciliation sociale, enfin une compréhension des mouvements sociaux, et que, comme Albert Demain, je crois, dit en termes propres, un pays qui n'aurait pas plus les valeurs religieuses serait tout près de retomber à l'état sauvage. C'est un peu exagéré, mais ça traduit bien l'idée de ces catholiques qui vont se battre bec et ongles pour maintenir le concordat.
Je reçois Bernard Houdin, auteur du livre Aristide Briand, paru aux éditions Perrin, et nous évoquons cette personnalité que, au fond, on connaît assez peu, et pourtant, comme vous le rappeliez en début d'émission, il a son nom dans toutes nos rues de France. Je voudrais également signaler à nos auditeurs qu'un petit livre paru également aux éditions Perrin dans la collection de poche, la collection Tempus, présente une anthologie de textes qui ont été réunis par Dominique de Villepin, les textes fondateurs de la loi de 1905. Le livre s'appelle 1905, la séparation des églises et de l'État, les textes fondateurs. C'est un travail qui est totalement inédit, qui est très très utile et dont je me suis servi pour préparer cette émission. Donc nous avons d'ailleurs...
Oui, je peux me permettre, oui, on disait, et c'est le texte de la loi, la séparation des églises et de l'État, ce qui est normal. Mais bien entendu, dans le langage courant, on disait toujours la séparation de l'église et de l'État, ce qui n'était pas faux non plus, parce que le concordat, il n'était fait qu'avec l'église catholique. Donc ce qui s'agissait de séparer, c'était l'église catholique qui seule était religieuse d'État par le concordat et l'État. Donc là, il y a une petite ambiguïté, mais qui est dans, tout naturellement, la loi a dit séparation des églises, parce qu'elle appliquait à toutes les églises le principe de la séparation.
Alors, nous en sommes à l'année 1905.
Oui.
Briand est rapporteur du projet de loi, et il a qu'un objectif, et cet objectif au fond fascine parce que c'est un appel vers l'avenir. Il veut à tout prix éviter une guerre civile, au même titre que beaucoup plus tard, dans les relations franco-allemandes, il cherchera à tout prix à éviter un nouveau conflit franco-allemand, oui, par une conciliation. Est-ce que cette comparaison peut être faite?
Ah oui, tout à fait, d'autant plus qu'on l'a toujours appelé, et il semble même que ce surnom lui vienne déjà à l'époque de ses études, on l'appelait comme ça, on l'appelait l'arrangeur. Non, c'était un homme qui aimait arranger les choses et qui, dont le premier réflexe n'était jamais coupant et absolu, si vous voulez. Donc il va aborder il est mis en vedette pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Le gouvernement je dirais pas qu'il s'en lave les mains, mais s'écartant un petit peu du débat, et il va tenir à bout de bras ce débat qui va être très long, qui va durer 3 mois, ce qui naturellement va le mettre en vedette. Alors il y a l'aspect public, officiel. Il est là à la tribune, il se bataille à la fois contre les catholiques, mais aussi contre les plus extrémistes des anticléricaux qui... On voit tout le temps des amendements interdisant ceci et cela. Bon, alors, les uns veulent supprimer les croix sur les tombes dans les cimetières, les autres, au contraire, veulent qu'on maintienne une croix à l'entrée des cimetières, etc. Bon, les fêtes religieuses, qu'on veut changer de nom, que certains veulent changer de nom. Parfois, il y a des extrémistes qui veulent que les prêtres ne puissent plus porter la soutane, etc. Bon, et à chaque fois, il y a beaucoup d'humour, même parfois Briand les remet à sa place en disant, écoutez, non, on ne va pas se payer le ridicule de fixer l'habillement des gens, dit-il à propos de la soutane. À l'inverse, il y a un député catholique, quand on discute les questions financières et qu'on dit que l'État ne subventionnera jamais aucun culte, il y a un député qui catholique qui dit qu'on devrait tout de même prévoir qu'on puisse fournir une aide pour les secours religieux donnés aux indigents. Et alors, Briand sort ses griffes et il dit, j'ai une meilleure opinion de vous de l'Église. Je pense que jamais l'Église ne laisserait des indigents sans lui apporter ses secours religieux. Alors, tout ce débat dure très longtemps. Et finalement, il va triompher puisqu'il va obtenir quand même une très très large majorité, j'ai plus le chiffre dans la tête, mais qui... très nettement, fait qu'il y a vraiment que quelques extrémistes anticléricaux et l'opposition catholique, qui est une minorité dans l'assemblée élue issue des élections de 1902, qui se prononce contre. Et puis, il y a un aspect beaucoup plus officieux, beaucoup plus discret, c'est qu'il a des contacts avec, non pas du tout avec le Vatican, qui ne s'y prêterait pas, mais avec certains éléments les plus tolérants et les plus ouverts de la hiérarchie catholique française. Et notamment Monseigneur Fuset, qui est archevêque de Rouen, et à qui il a des contacts même directs, personnels, d'abord par l'intermédiaire de son, et puis personnels. Et c'est là qu'il mesure exactement ce que l'Église serait à la rigueur disposée à admettre et les points sur lesquels elle ne pourrait pas transiger, si vous voulez.
Vous racontez une scène extraordinaire, oui, où en fait tout le monde a rendez-vous pour, oui, dîner ou déjeuner, et il arrive en avance, il rencontre Monseigneur Fuset, oui, et d'une conversation au fond anodine sortira l'article 4 de la loi de séparation de l'Église, oui, et de l'État.
Et alors notamment, il y a un point qui est très important, qui est qu'on va créer donc ces associations cultuelles ou diocésaines, comme on dit maintenant. Bon, Et Briand n'hésite pas à dire que ces associations devront se conformer. Elles n'auront qu'un rôle strictement administratif, financier, mais elles devront se conformer aux indications des évêques, notamment sur le plan religieux, si vous voulez. Et en fait, ça crée un tollé à gauche parce que beaucoup de gens espéraient susciter un petit peu des possibilités de schisme, si vous voulez. Et à droite, au contraire, on ne voulait à aucun prix des schismes éventuels puissent être encouragés par cette voie. Alors il y a notamment des protestants qui se disent quand même, en somme, cette loi livre les futurs calvins, les futurs Luther à la, n'est-ce pas, l'autorité des églises, mais finalement, Briand tient bon et fait comprendre que là-dessus, l'Église ne pourrait pas transiger. Et il a une phrase fameuse en disant que, si vous voulez, ça peut déplaire à certains d'entre vous, mais il y a une Église, il y a des prêtres, il y a des évêques, il y a même un pape, et ce sont des réalités, on doit en tenir compte. Bon, ce qui est une déclaration très, très ferme là-dessus. Et donc, finalement, il arrive à ce que cette loi soit votée dans des conditions assez larges, assez confortables, une majorité assez confortable, que le Sénat viendra très vite également confirmer, parce que le Sénat est à gauche, hein, c'est à l'époque, et le Sénat est souvent plus à gauche que l'Assemblée nationale, que la Chambre des députés sous la Troisième République. C'est un phénomène curieux, mais c'est ainsi.
Et il y a un article de la loi qui va passer inaperçu et oui. qui va très vite être voté. C'est le fameux article 3 sur les inventaires, oui. Alors ça, qui pourtant, lui, très très vite, puis l'année d'après, va créer un climat de guerre civile.
Oui, alors ça, c'est ça qui est paradoxe, évidemment. Bon, la loi a été condamné par Rome, qui a une encyclique qui s'intitule Vehementer, ce qui est déjà tout un programme, si on peut dire. Mais bon, les catholiques finissent par s'y résigner, comme dit un des chefs du parti catholique. C'est absolument inacceptable, mais on accepte tous les jours des choses inacceptables. Et donc finalement, ça semble pouvoir passer sans trop de d'histoire. Et puis il y a ce fameux article 3 où voté dans une quasi-indifférence, où on dit simplement que pour des raisons de bonne administration, on va faire un inventaire de ce qu'il y a dans les églises, puisque c'est l'État maintenant propriétaire devra entretenir les églises au point de vue patrimonial. Bon, donc on va faire un inventaire. Et puis il y a un obscur fonctionnaire qui fait un décret, une circulaire d'application. Dans cette circulaire, il dit les huissiers qui vont faire les inventaires devront se faire ouvrir les tabernacles, ce qui est quelque chose de pour le moins maladroit. Et du coup, cette querelle va relancer en 1906 la querelle religieuse d'une manière dramatique. Alors là, ça se passait beaucoup plus mal, curieusement, encore plus mal que les expulsions de congrégations, parce que la troupe, les officiers qui ont souvent ont quand même prêté la main aux expulsions des chartreux, des machins. Bon, là, il y a des officiers qui cassent leur épée, qui refusent de marcher, des églises qui se s'enferment et qu'on doit assiéger, notamment Sainte-Clotilde et Saint-Pierre-de-Gros-Caillou à Paris. On doit disperser les manifestants catholiques avec la lance à incendie, etc. Nouvelle arme inventée par le préfet Lépine. Et la querelle ira même jusqu'à quelques morts d'hommes en province. Donc ça va être assez rude.
Heureusement, est-ce que ce n'est pas non pas un échec, mais pour Aristide Briand,
oui.
il a dû être marqué au fond par oui. cette dérive, lui qui souhaitait une conciliation et que chacun retourne chez lui.
Oui, sans... et il est certain qu'il y a eu une énorme bourde, on peut le dire, de la part du gouvernement et de ses fonctionnaires, et puis il y a eu aussi de la part des extrémistes catholiques une occasion, ils ont saisi, si vous voulez, cette occasion pour provoquer des désordres. Ça, c'est incontestable. Alors, à ce moment-là, Briand est ministre des cultes et le président du Conseil, c'est Clémenceau. Premier ministre Clémenceau en 1906. Et c'est Clémenceau qui dira, compter quelques chandeliers ne vaut pas tuer les gens et donc on arrêtera les inventaires et voilà. Alors ça sera la première le premier pas fait pour une réconciliation. Ce qui les pas suivants, ça sera bien sûr la guerre de 1914. Jules Ferry en imposant une des lois qu'avait fait Jules Ferry pour brimer l'Église, c'était de soumettre les prêtres au service militaire. Ben, il leur a rendu un grand service parce que la présence des prêtres dans les tranchées a fait que la fraternité des tranchées a beaucoup mis de l'huile dans les rouages des rapports entre celui qui croit au ciel et celui qui n'y croyait pas, comme a dit quelqu'un.
Alors avant peut-être de venir à cette réconciliation, parce que nous le verrons d'ailleurs après la Première Guerre mondiale, il y aura le rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican. Peut-être quelques questions sur l'attitude d'Aristide Briand. René Raymond mettait en avant dans une interview de la Revue des Deux Mondes, le dernier numéro, qui est consacré à Dieu et César, c'est le titre du numéro de février de la Revue des Deux Mondes. René Raymond disait donc qu'il n'y avait aucune négociation avec le Vatican et avec le Saint-Siège. Est-ce que Briand, en tant que membre du gouvernement, ministre des Cultes, par la suite, n'aurait-il pas gagné à tout faire pour essayer de négocier avec le Vatican ?
Peut-être, mais jusqu'à la mort de Pie X, qui devait être mort, je crois, la veille de la guerre en 1913 ou 14, il se refusait à toute espèce de négociation. Je crois que le Vatican n'était pas du tout ouvert.
Le Vatican était opposé.
Ah oui, il n'était pas ouvert à la négociation.
Il y aurait eu des démarches entre de la France vers le Vatican.
Je ne crois pas. J'en ai pas trouvé trace.
Alors, pour Briand, est-ce que la religion se résume au fond à une affaire privée? Parce que la séparation de l'Église et de l'État va privatiser en quelque sorte l'Église.
Oui, bien sûr, oui.
Ça devient quelque chose de privé.
Oui, c'est ce qu'on veut, oui, bien sûr.
Dès lors, la religion, pour Aristide Briand, n'a plus un rôle social à mener?
Ah ben, justement, c'est ce que la République voulait, c'est qu'elle n'ait plus de rôle social, ou le moindre rôle social possible, notamment sur le plan de l'éducation. C'était là qu'était la grande concurrence entre l'Église et l'État, c'était l'éducation, et on voulait qu'elle ait le moindre rôle possible. Bon, on n'a pas supprimé les écoles religieuses, enfin, Combes l'aurait bien voulu, mais certains qu'on voulait diminuer, on voulait étendre l'école publique, et c'est pour ça qu'on a construit une église, une école dans chaque village. Et où parfois il y avait effectivement des oppositions entre l'instituteur qui représentait l'État et le prêtre, et parfois des querelles à la cloche-mère. Souvent le Vendredi Saint, on dressait des tréteaux devant l'église sur la place publique. Bon. Faire le banquet du vendredi 10 saint, où on se gavait de charcuterie et de viande devant la porte de l'église, en fait. Ah, bon. Il y avait tout un aspect cloche-merle, il n'y a pas d'autre chose. Il y a un côté pittoresque.
Oui, mais
en Bretagne.
L'année 1906 est vraiment une année dure. Vous citez un moment, lors d'un débat, Aristide Briand, il s'en prend à la droite, il dit « Il ne tenait qu'à vous d'en faire une loi d'apaisement. Les vrais coupables, ce sont les excitateurs, ceux qui, depuis des jours et des jours, à travers les campagnes, répandent le mensonge. » Est-ce que la loi de 1905 en 1906 n'échappe pas à Aristide Briand ?
Bah, un petit peu, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plus excités ont saisi l'occasion des inventaires, qui est à l'origine une faute grave du côté gouvernemental. Enfin, ils ont saisi cette occasion pour exciter les gens, ça c'est certain. Même parfois contre les prêtres à Sainte-Clotilde à Paris, le prêtre de Sainte-Clotilde est furieux contre les excités du Sillon et d'autres qui viennent occuper l'église contre sa volonté, qui dressent des barricades pour empêcher la police d'entrer, etc. Bon, on déverse des pots de chambre, ça c'est aussi un aspect très très Troisième République, si vous voulez.
Mais alors, même dans son propre camp, Clémenceau, vous citez un moment, Clémenceau, page 154, qui donne l'impression que cette loi est inachevée.
Oui, Clémenceau fait partie des plus anticléricaux. Il arrête les inventaires uniquement pour des raisons d'ordre public, enfin de calme, pour rétablir le calme. Mais s'il ne tenait qu'à lui, il est notamment très hostile à la reprise des relations avec le Saint-Siège.
Alors justement, l'apaisement aura lieu après la Première Guerre mondiale, c'est ce que nous verrons. Bernard Houdin, après une dernière pause, à tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission, la dernière partie. Je reçois Bernard Houdin, auteur du livre Aristide Briand, paru aux éditions Perrin. Donc nous avons évoqué toutes ces années 1905-1906, première étape, le vote de la séparation, et la deuxième étape, toute cette querelle. Une querelle au fond qui va, qui même si elle s'apaise après les inventaires, va être larvée et ne s'apaisera qu'avec la Première Guerre mondiale. Il y a un livre de Maurice Barrès que je citais en début d'émission, qui est La Grande Pitié des Églises de France, et il y a une sorte de fascination quand même de Maurice Barrès sur le personnage Aristide Briand.
Oui, c'est effectivement un adversaire politique, mais c'est un de ceux dans le camp catholique qui a été le plus sensible au charme de Briand. Il l'a rencontré, il avait lancé ce cri d'alarme sur la grande pitié des Églises de France. Il avait fait beaucoup de campagnes aussi parce que il y avait là aussi, je faisais allusion tout à l'heure aux aspects cloche-merle de ces batailles locales, mais par exemple Barrès citait le cas de Vendôme où une municipalité anticléricale avait fait ériger un urinoir contre l'église, pas en face, contre, pas comme dans Cloche-merle c'était en face, mais là c'était contre l'église, et des choses de ce genre, bon. Et donc, il lance ce pavé, et Briand, il est sensible, il reçoit Barrès, et ils s'entendent assez bien là-dessus. Enfin, et Briand, dans la mesure, quand il est au pouvoir et quand il a son mot à dire, fait ce qu'il faut de ce côté-là. Enfin, parce qu'il est devenu ministre, alors il y a un petit mot qu'il faut dire quand même, c'est qu'il est... La séparation l'a mis en vedette. Tout de suite, on lui a proposé le ministère des cultes. Il y avait un petit problème, c'est qu'il était au Parti socialiste. C'est que les socialistes avaient pour règle de... On ne participe pas à un gouvernement bourgeois, donc... Et il a eu à choisir entre le socialisme et sa carrière ministérielle. Une première fois sur les instances de Jaurès, il a refusé. Et puis la seconde fois, il a franchi le Rubicon et il s'est laissé exclure du Parti socialiste. Et
il devient socialiste indépendant.
Il devient indépendant. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que toute sa vie, il ne sera plus membre d'un parti. Il sera complètement...
C'est extraordinaire. On a du mal à imaginer aujourd'hui, en 2005, ministre qui ne fasse pas partie.
Et surtout une carrière, il y en a, mais une carrière de cette ampleur, surtout un chef de gouvernement et ayant occupé tous les postes ministériels. Donc, il est au culte, il est ensuite à la justice où il essaye de supprimer la peine de mort, mais il n'y réussit pas. C'est dans les années 1908, par là. Voilà. Bon, donc on en arrive aux années de guerre.
Vous dites qu'il a été président du Conseil. Oui. Est-ce que on sait que le Vatican a un rôle important dans cette guerre, ou en tous les cas tente d'avoir un rôle important? Benoît XV essaie diplomatiquement de jouer un rôle. Est-ce qu'Aristide Briand va essayer de reprendre contact avec le Vatican diplomatiquement?
Oui, en tout cas avec Benoît XV. 1815 et surtout avec Pie XI, le problème de la du rétablissement des relations avec le Saint-Siège devient un problème très important dans les années qui suivent immédiatement la première guerre mondiale. C'est même là-dessus que va se jouer l'échec de Clémenceau à la présidence de la République. Vous savez que Clémenceau, en 1920, tout le monde était sûr qu'il allait être élu président de la République. Et Briand et Clémenceau, qui avaient été assez amis à une époque, au début du siècle, étaient devenus ennemis irréconciliables, parce que Clémenceau reprochait à Briand justement certaines tentatives de paix pendant la guerre, et lui était pour la guerre à outrance, donc il ne voulait absolument pas. Il avait déjà dit qu'au moins celui s'en foutait d'être président de la République, ça lui faisait aucun plaisir, mais enfin qu'il a quand même un petit plaisir, c'est que Briand taperait la semelle devant l'Élysée pendant 7 ans. Alors pour Briand, évidemment, c'était une question de survie politique, de vie et de mort politique, et il a livré un combat qui n'était pas très élégant, mais et justement, il a, auprès de la majorité de 1920, qui est une majorité très à droite, la fameuse chambre bleu horizon, il a fait jouer justement des influences religieuses, parce que Clémenceau était fondamentalement hostile à toute reprise des relations diplomatiques avec le Vatican. C'est comme ça que Clémenceau a perdu la présidence, et que, au contraire, Briand a repris sa carrière de plus belle. Donc les relations sont reprises, mais en 1924 arrivent des élections à gauche cette fois-ci.
C'est lui, c'est lui qui nomme le premier ambassadeur,
oui, absolument.
Au Vatican,
absolument.
Ce qui est quand même une marque.
Il
est ministre des Affaires étrangères à cette époque.
Oui, c'est ça. Peut-être même aussi président du Conseil, mais je ne me souviens plus. Mais là-dessus, donc, arrive en 1924, le cartel des gauches arrive au pouvoir, et de façon un peu artificielle, un peu bizarre, rallume un peu la guerre religieuse. Ça, c'est Herriot qui est à ce moment-là président du Conseil, vu radical, solidement radical et anticlérical. Maire de Lyon. Et qui, très hostile à la religion, il voudrait supprimer le concordat en Alsace-Lorraine, parce que vous savez qu'on avait hérité, quand on avait récupéré l'Alsace-Lorraine, on a hérité d'une situation de concordat qui dure encore. On ne sait pas qu'à l'heure actuelle encore, les prêtres d'Alsace-Lorraine sont payés par l'État, et il voulait supprimer ce statut particulier, et il voulait rompre les relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Bon, je crois que ça ne se fait pas finalement, mais ça s'interrompt de facto brièvement. Et Briand, à ce moment-là, il est nommé à la SDN, enfin représentant de la Société des Nations, et quand il va devenir ministre des Affaires étrangères en 1925, effectivement, il va de nouveau mettre de l'huile dans les rouages entre la France et le Saint-Siège.
Il s'oppose à cette volonté politique du cartel des gauches, oui. Cette volonté anticléricale.
Hein. Oui.
On dit de lui, c'est un hérétique de la laïcité.
Oui, oui, beaucoup de gens à l'extrême gauche, enfin, le soupçonnent, n'est-ce pas, d'être un anticlérical pas assez douteux, si vous voulez.
Alors, il y a un dernier fait qui mêle Aristide Briand à la religion catholique, oui. C'est la question de l'Action française.
Oui.
Et alors vous, l'Action française était un mouvement royaliste qui va être condamné par le Vatican. Pion, oui. Par Pion en 1926.
27. Oui.
Vous dites qu'il y a, enfin, qu'il y a une probabilité, est-ce qu'il y a un lien,
une possibilité,
vous dites ce ne serait pas impossible, vos mots exacts, entre le rétablissement d'une relation saine et normale avec le Vatican et cette condamnation de l'action française qui luttait contre le gouvernement et qui va fortement lutter notamment contre la politique étrangère d'Aristide Briand, la politique en faveur de l'Allemagne.
Alors ça, c'était assez difficile à dire. Si vous voulez, d'un côté, il y a Aristide Briand qui fait tout ce qu'il peut. Alors d'un point de vue, là aussi, tout très discrètement, on permet aux congrégations de revenir. Il n'y a pas de loi, on ne les autorise pas officiellement, mais ils reviennent petit à petit.
C'est à ce moment-là qu'elles deviennent diocésaines.
Voilà. Et non, mais je parle des congrégations, des Chartreux, oui, des oui, dominicains, etc. Bon, ils reviennent, on ferme les yeux. Bon, ça se passe très bien. Et de facto, les persécutions de 1902 sont annulées et Briand y est pour beaucoup. Alors, il se trouve qu'en même temps, à peu près à la même moment, il y a cette politique de réconcilier le pacte de Locarno date de 1925, le grand pacte entre Stresemann et Briand, et l'Action française mène une tire à boulet rouge contre Briand, disant c'est un homme à fusiller, etc. Bon, ils sont une violence absolument extraordinaire contre Briand, et contre tous leurs adversaires politiques en général, mais enfin, c'est vraiment une de leurs têtes de Turc. Et voilà, qui se sont condamnés par le Vatican. Alors, ils sont condamnés pour des raisons tout à fait... Il y avait des raisons religieuses,
oui, oui.
Tout à fait réelles.
Jacques Prévotel, l'historien, l'a bien montré.
Oui, Maurras ne s'en cachait pas, il était athée, il n'était pas du tout religieux, mais il était favorable au christianisme pour des raisons de cohésion nationale. Mmh. De même qu'il était monarchiste, pas pour des raisons de droit divin, mais pour des raisons rationnelles, si vous voulez. Bon, c'est la position Et d'autre part, l'Action française avait, il ne faut pas oublier, une influence extraordinaire sur la jeunesse. Ça, c'est un phénomène qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, mais c'est un fait que dans la jeunesse, notamment les adolescents et les jeunes, enfin les étudiants, ils avaient une influence grandissante. Or, l'Église voyait ça d'un mauvais œil, toujours la même histoire, c'est la jeunesse, c'est quand même l'enjeu de tout ça. Alors, l'Action française a dit si on nous interdit, c'est parce qu'il y a eu un échange de bons procédés. Je ne dirais rien de plus que ça, ce n'est pas impossible, mais il n'y en a pas en tout cas de traces, en tout cas diplomatiques et écrites évidentes. Mmh. Il est possible qu'il y ait eu des mots prononcés, des échanges par des intermédiaires, qu'on ait fait comprendre que, etc. Mais c'est pas sûr. Pas sûr du tout.
Eh bien, c'est sur ces mots, Bernard Audin, que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur d'une excellente biographie sur Aristide Briand. Elle a le grand avantage d'avoir un index qui est également un index thématique, un index d'énoncité.
Oui, comme on n'en fait plus maintenant.
Exactement. Et l'index thématique est très, très, très pratique pour l'historien qui peut en faire un ouvrage de référence. Je cite également, donc ce livre est apparu aux éditions Perrin. Il s'agit d'une réédition. Autre livre chez Perrin, 1905, la séparation des églises et de l'État, les textes fondateurs, une présentation de Dominique de Villepin, il s'agit d'un livre de poche inédit. Et enfin, la revue des Deux Mondes, que j'ai cité tout à l'heure, la revue des Deux Mondes, qui, pour son numéro de février 2005, publie donc un numéro spécial intitulé « Dieu et César ». Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Bernard Audin, merci.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.